Je suis ravi de pouvoir intervenir devant vous aujourd'hui en compagnie des autres experts qui sont à la table. L'idée ici, c'est de... Alors, je vais me présenter d'abord. Donc, je suis Gilles Rouvier, je suis avocat au barreau de Paris. Ça fait une trentaine d'années. J'ai commencé ma carrière au début de l'Internet grand public avec les premiers contentieux. Aujourd'hui, je dirige en tant qu'associé un cabinet d'une dizaine d'avocats et on intervient essentiellement en conseil pour des entreprises sur les nouvelles technologies. Je suis également président d'une association qui s'appelle CyberLex, qui réunit les gens du droit et les gens de la tech. Et lundi dernier, par exemple, on faisait un colloque au Sénat sur la régulation de l'IA, les avantages, les inconvénients, et c'était assez passionnant. Alors, ici, le propos est simple, c'est assez rapidement de présenter, et il y a certainement beaucoup de personnes dans la salle qui savent déjà ce que c'est, comment ça fonctionne, mais de présenter les grands traits de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence artificielle générative. Et puis peut-être de réfléchir, avant vos questions, sur son impact dans vos activités, dans l'expertise médicale. Alors, c'est le regard d'un juriste, c'est-à-dire que c'est de la vulgarisation. Je ne suis pas ingénieur, mais je pense que je comprends assez bien la façon dont ça fonctionne pour y travailler très très régulièrement. Quotidiennement, on a des demandes d'investigation et d'explication et de recherche de la valeur sur des outils d'intelligence artificielle. Alors, est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas, c'est pas grave, on va le faire à la main. Je le fais comme ça, ça va aller. Voilà. Donc la notion d'intelligence artificielle, on va regarder ce que c'est, on va essayer d'expliquer ce que c'est, ce que ça n'est pas, et les précautions à prendre. C'est bon, tout va bien. Alors voilà, ça, vous le connaissez tous, c'est ce qui a déboulé dans nos vies quotidiennes en novembre 2022, c'est l'intelligence artificielle générative. C'est des images qui sont générées par des ordinateurs, c'est absolument extraordinaire, c'est fascinant. Moi, j'utilise l'intelligence artificielle dans mon activité au jour le jour, quotidiennement, mais en prenant des précautions, et en réfléchissant et en ayant un regard critique. Donc là, vous voyez, tout de suite, il y a à la fois des choses belles, et puis il y a aussi de la désinformation, avec le président Macron, en train de courir dans la rue avec des émeutiers, ou encore Barack Obama en train de prendre une glace sur la plage. Bref, puis à droite, il y avait une vidéo, mais elle n'est pas activée ici, pour des questions de réseau, visiblement. Voilà, donc ça, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Ça n'est qu'un outil, et il faut sortir de la démarche anthropomorphique qui consiste à attribuer des qualités humaines à un outil. Mais à côté de ça, c'est beaucoup de choses sur lesquelles il faut rapidement donner quelques explications. D'abord, le terme d'intelligence artificielle, en soi, il est trompeur. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il est trompeur. Il est dans le langage commun. Tout le monde parle d'intelligence artificielle, donc c'est trop tard. C'est de l'intelligence artificielle. C'est des outils d'intelligence artificielle. Mais en fait, le terme, il vient... D'abord, l'intelligence artificielle, ça existe depuis les années 30. C'est pas en novembre 2022 avec ChatGPT. Ça existe depuis très longtemps, la recherche sur les réseaux neuronaux artificiels, sur les différentes couches de réseaux neuronaux, sur les études statistiques, ça existe depuis très longtemps. Dans les années 50, et en 56 précisément, à la conférence de Dartmouth, à côté du MIT, à côté de Boston, des scientifiques, des chercheurs qui recherchaient sur l'intelligence artificielle se sont dit, ce qu'on fait, c'est absolument génial, ils étaient une dizaine, et se sont dit, il faut qu'on trouve un terme qui parle au public. Et il y en a un qui s'appelle McCarthy, qui n'a rien à voir avec le McCarthyisme, mais McCarthy a dit, on va parler d'intelligence artificielle, mais intelligence dans le sens anglo-saxon. Et je tiens vraiment à lever ce point, parce que c'est une telle confusion, c'est pas intelligent, c'est pas au sens américain smart, clever. C'est intelligence dans le sens CIA, c'est-à-dire que c'est du renseignement, c'est de la collecte d'informations de façon artificielle. Simplement, tout le monde, maintenant, le prend et le conceptualise dans le sens Terminator, Skynet, ça va dominer la planète, c'est intelligent, ça va être supérieur à l'homme. Moi, je veux vraiment toujours avoir du recul par rapport à ça et considérer que c'est un outil qui n'est pas intelligent, mais en revanche, il faut l'utiliser de façon intelligente. Alors, l'intelligence artificielle, ça recouvre beaucoup de choses. Et puis, ça fait partie de ces termes un peu valises qu'on voit très régulièrement, qui contiennent beaucoup de choses. On a eu le Web 2.0, le Big Data, le Cloud Computing, le Web 3.0, la blockchain, le Metaverse. Bon, chaque année, on a quelque chose de nouveau, mais... On a l'intelligence artificielle maintenant, et très concrètement, je pense que c'est vraiment une révolution. Mais pas une révolution au sens révolution industrielle, plus une révolution au sens humaniste, au XVIIe, ou voire siècle des Lumières. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui transcende l'ensemble des acteurs de la société économique et qui vient percuter et remettre en cause notre conception même de ce qu'est l'humain et de l'interaction qu'on peut avoir les uns avec les autres. Puisque c'est quand même la première fois qu'on arrive à parler avec une machine et avoir une interaction avec une machine. Et ça nous interroge sur ce qu'est l'humain, sur ce qu'est la parole. Il y avait un article très intéressant dans Le Point la semaine dernière par un ecclésiastique sur ce qui caractérise l'humain, et notamment c'est la parole, le verbe. Bon, bref, sur l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence artificielle qu'on connaît, mais il y a aussi plein de formes d'intelligence artificielle. Le machine learning, le deep learning, les réseaux de neurones qui relèvent de l'IA générative. Alors, rapidement, ce que ça n'est pas, c'est pas une reproduction de l'intelligence humaine. C'est pas aussi complexe. Et je pense qu'on est encore loin d'avoir la complexité et la largeur de vision de l'intelligence humaine. Ce n'est pas non plus une entité consciente. Contrairement à ce qu'on peut voir dans les films, on n'y est pas encore, et je pense qu'on est loin d'avoir une intelligence qui va avoir conscience d'elle-même. C'est-à-dire que par des mécanismes que j'expliquerai rapidement après, elle est capable de répondre à une question. Quand on lui dit « qui es-tu ?», elle va dire « je suis une intelligence artificielle ». Vous l'avez certainement tous expérimenté en utilisant ChatGPT. Et c'est, elle dit, mais elle n'a pas conscience, parce qu'elle n'est pas elle, ça n'est qu'un outil. C'est des algorithmes, c'est des data, j'y viendrai après. Et surtout, ce n'est pas une solution miracle. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. Il y a un côté très assertif dans l'intelligence artificielle générative. Ça vous dit, vous posez une question et ça vous dit, voilà, la vérité, c'est ça. Et ce côté assertif est extrêmement trompeur. Et c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de recul par rapport à ces outils. Et en particulier, on va y venir après, dans vos métiers. Alors, là, ce schéma, on l'avait fait avec un ingénieur. Concrètement, ça dit quoi? Ça dit que si vous partez de la gauche et que vous arrivez à la droite, il y a beaucoup de data, beaucoup d'entraînement sur des masses de données qui sont colossales. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle s'est énormément développée à la suite du big data, parce qu'il faut vraiment des volumes de données. Vous en entendez tous parler, vous avez lu des articles là-dessus. Et dans le domaine médical, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de données. Et ces données sont traitées, processées, elles permettent d'entraîner des moteurs algorithmiques, elles permettent de façonner et d'entraîner des couches de réseaux neuronaux artificiels et d'avoir, et c'est là où on y vient, un mécanisme qui repose sur les statistiques et, les probabilités. Ce n'est pas un mécanisme déterministe. Vous avez des logiciels, en dehors de l'intelligence artificielle, des logiciels experts, des logiciels qu'on utilise. Vous posez une question, vous aurez toujours la même réponse. Vous dites 1 plus 2 égale 3, vous aurez toujours cette réponse. Vous lui dites imprime-moi ça, il va toujours le faire. C'est parce que c'est des mécanismes qui sont définis à l'avance. L'intelligence artificielle fonctionne différemment. Elle prend toutes les données et à partir des données, elle va tirer des règles. Mais comme ça repose sur un mécanisme probabiliste et statistique, les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Et en fait, ça va dépendre de la qualité des données, ça va dépendre de la pertinence des questions, de la façon dont on pose les questions. Et tout l'art est dans la question, justement, avec l'intelligence artificielle. Et les résultats vont pouvoir être différents pour la même question. Comment ça marche concrètement? C'est sur ces masses de données, ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, pour l'intelligence artificielle générative, vous avez de l'entraînement et des poids algorithmiques qui sont attribués à des mots. Et par exemple, quand vous avez la phrase « je sors de chez moi », aujourd'hui, le ciel est. Ce n'est pas la phrase de l'exemple, mais c'est un exemple que je préfère. Quand vous avez cette phrase, je sors de chez moi, aujourd'hui, le ciel est. La probabilité que vous ayez gris, couvert ou bleu, elle est de 1 sur 3. Et en fonction de la question que vous avez posée avant, ça va peut-être dire bleu, mais s'il n'y a pas eu de question avant, ça peut vous dire au hasard, il va être gris, mais ça n'a aucun rapport avec la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut avoir énormément de recul par rapport à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que les résultats ne sont pas déterministes, mais statistiques, aléatoires et probabilistes. Et c'est pour ça qu'on parle des hallucinations de l'intelligence artificielle. Justement, parce qu'on ne peut pas se fier à 100% à ces outils. En revanche, ça fait gagner énormément de temps, ça permet d'ouvrir sur des portes auxquelles on n'avait pas pensé. Et encore une fois, moi je l'utilise tous les jours et il faut l'utiliser avec des précautions. Alors, dernière chose, par rapport à vous, les avantages indéniables de l'intelligence artificielle, c'est la capacité à analyser, à trier, à synthétiser des volumes massifs de données et très variés, donc images, textes, voix, vidéos, voilà, musique. Dans les dossiers médicaux, ça a un intérêt très très visible, hein, sur les radios, les bases de données, les données patients, les études qui ont pu être faites. Et les connaissances de l'IA, parce que maintenant elle est connectée sur le web, dans la recherche, dans la recherche sur le web, elles sont quand même de plus en plus actualisées. À une époque, on avait juste, quand on alimente de l'IA, on la fait tourner sur le web, elle va scraper des données avec, et je n'entrerai pas là-dedans parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais tous les problèmes de droits d'auteur, de contrefaçon et de collecte de données, y compris médicales, de façon non autorisée. Mais ça, ce n'est pas le débat. Parce que là, l'idée, c'est que, en fait, aujourd'hui, l'outil permet quand même d'avoir des connaissances assez actualisées sur des articles de recherche, sur des données médicales ou des données scientifiques récentes, parce que ça va chercher sur le web. Mais à côté de ça, dans vos missions d'experts, vous avez des principes à respecter, et là, on va y venir. Et ces principes, c'est notamment le secret médical, le secret professionnel, la transparence, l'explicabilité, le contradictoire, la pertinence des avis, expliquer comment l'expert est arrivé à son avis. Et je vais en terminer par là. Ces principes, ces grands principes de la mission d'expertise, il faut vraiment, si vous utilisez des outils d'intelligence artificielle, et après ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs de savoir dans vos questions, dans l'interaction qu'on va avoir, si vous utilisez des outils d'IA aujourd'hui, si vous vous rendez compte que vous utilisez des outils d'IA, parce que souvent on utilise de l'IA sans même le savoir, et de voir si vous avez conscience des précautions qu'il faut prendre, et j'y viendrai après. Mais en tout cas, par rapport à la mission de l'expert, la confidentialité, c'est des données médicales. Si vous utilisez des outils d'IA, c'est des données médicales que vous mettez dans le système. Donc, il y a vraiment des précautions à prendre. Sur la pertinence, ça peut se tromper, et ça se trompe. Et posez deux fois la même question, et vous verrez que la réponse n'est pas forcément la même. La transparence, il faut expliquer qu'en tant qu'expert, si c'est le cas, que vous utilisez de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il faut aussi expliquer quelles précautions vous avez pu prendre par rapport à cet outil, comment vous l'avez utilisé. Au final, parce que avec l'IA, ce qui est lié, ce qui est intrinsèquement lié, c'est ce qu'on appelle l'effet black box. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément expliquer, quand on rentre un input, comment est-ce que l'output a été créé par l'intelligence artificielle. Or, dans la mission de l'expert, il faut quand même qu'il explique son raisonnement et comment d'un point A, il est arrivé à un point B. Pour des questions de transparence et de contradictoire, pour que les parties plaignantes des deux côtés puissent... défendeur ou demandeur, puisse argumenter et faire jouer le principe du contradictoire et venir critiquer peut-être la mission de l'expert. Et deux choses, la responsabilité de l'expert, et j'en terminerai par ces deux points, la responsabilité de l'expert, elle reste pleine et entière. C'est un outil que vous utilisez. Si vous utilisez de l'IA, des outils d'IA, c'est un outil. C'est-à-dire que c'est au même titre que Office, au même titre qu'un PC, au même titre que quand vous allez chercher des informations sur Internet ou sur des bases de données, c'est un outil. Donc la responsabilité de l'expert, elle reste pleine et entière devant le juge et devant les parties s'il y a eu des erreurs dans le rapport d'expertise. Donc il faut vraiment avoir du recul et faire attention et entourer de précautions l'utilisation de l'IA. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, ça veut dire que je pense qu'il faut vraiment réfléchir avant de l'utiliser. Et dernière chose, ce qu'on appelle le « shadow AI », c'est l'idée qu'en fait, dans vos équipes ou dans... les gens autour de vous peuvent, si vous avez des subordonnés, peuvent utiliser de l'IA sans même que vous le sachiez. Et ils vont utiliser de l'IA et à ce moment-là, ça induit des questions de responsabilité parce que cette IA, si elle n'est pas encadrée dans son utilisation, s'il n'y a pas eu une réflexion sur l'utilisation de l'IA, vous pouvez tout à fait avoir des données confidentielles médicales qui vont partir dans l'IA sans même que vous le sachiez. C'est plus en entreprise ce risque en fait. Donc voilà, ça c'était le dernier point. Trois recommandations, et puis après on passe à la table ronde. Trois recommandations. Je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est que la clé pour l'IA, que ce soit dans vos domaines, ou d'une manière générale par rapport à la société, c'est la formation et l'éducation. Il faut miser sur l'intelligence des gens, il faut former, il faut communiquer, il faut prendre du recul, il faut expliquer comment ça fonctionne, et il faut que les utilisateurs adoptent un esprit critique, comme au siècle des Lumières. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, la raison ne suffit pas. Il faut avoir du recul, il faut avoir un esprit critique par rapport à cet outil qui est fantastique, qui est extraordinaire, qu'il faut utiliser. Le deuxième point, c'est que quand on l'utilise, il faut prendre des précautions. Il faut regarder juridiquement, ça c'est un travail d'avocat, les terms and conditions, les conditions d'utilisation de l'outil que vous allez décider d'utiliser pour voir si la confidentialité est respectée, pour voir quelles sont les limites de garantie en termes de responsabilité, pour voir où les données vont être stockées, est-ce que ça va rester au sein de l'Europe, est-ce que ça va partir aux États-Unis, est-ce que ça va aller en Chine, DeepSeek. Bon. Et puis, il faut, troisième point, informer dans un souci de transparence le juge, les parties. Il faut vraiment dire clairement si vous utilisez de l'IA et dans quelles conditions vous utilisez de l'IA. Je pense que ces trois points, formation, recul, analyse et information de tout le monde sur l'utilisation de l'IA, sont clés par rapport à l'IA et à l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Voilà, dans les grandes lignes, ce que je voulais vous dire en introduction du propos et des échanges qu'on peut avoir là maintenant autour de la table. Et juste une chose, regardez, vous avez certainement au moins une moitié de la salle ChatGPT sur vos téléphones. Regardez dans la partie données personnelles. Vous regardez dans la partie données personnelles si vous avez coché ou décoché le petit curseur qui s'appelle amélioration du service. J'accepte que mes données servent à améliorer le service. Concrètement, ça veut dire que tout ce que vous, si vous avez laissé, j'accepte que ça serve à améliorer le service, tout ce que vous mettez dedans va dans l'LLM et va servir à améliorer le service, effectivement, mais ne va plus être privé, et ne va plus relever juste de votre portable. Si vous décochez ça, vous avez plus de sécurité. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez une sécurité totale, mais en tout cas, vous avez fait une... Et là, je vois toujours, quand je dis ça dans la salle, des gens qui regardent leur portable et qui se disent « Ah, je ne l'ai pas fait ». Voilà.